tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast où tant il est dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous allons nous retrouver pour un hors-série estival qui va me permettre de faire une sorte d'audit sur l'ensemble des films que nous avons traités jusqu'à présent. En effet, nous avons fait 4 ans de Shark Parade, nous avons vu 100 films ensemble que j'ai chroniqués tout au long de ces 50 émissions, sans compter les hors-sujets donc, et avant de reprendre le rythme normal de nos émissions, eh bien il fallait quand même faire un petit point sur la liste des 100 films, la liste Shark Parade. Pour ce faire d'ailleurs, et je tiens à les remercier, eh bien je vais largement m'appuyer sur la liste Sens Critique de Quentin et la liste Letterboxd XD de Fabien, qui m'ont permis, à titre personnel, de ne pas avoir à tenir cette liste de façon plus explicite. L'occasion de revenir donc sur ces 100 premiers films, de se poser aussi la question, est-ce que, au bout de 4 ans, mon avis n'a pas légèrement changé? Est-ce que certains films ont été jugés avec sévérité, d'autres avec une trop grande mansuétude? Bref, jeter un coup d'œil à la fois rigoureux et attendri sur 4 ans de Shark Parade. Et restez jusqu'à la fin, car l'épisode va être un petit peu plus long que d'habitude, et il va y avoir une surprise. En effet, si vous me suivez sur Twitter, ou si vous avez pris directement cet épisode de podcast sur le site de Shark Parade, vous avez pu voir une superbe illustration de Shark Parade par W6, qui avait déjà réalisé plusieurs dessins illustrant Shark Parade, et là, qui m'a fait le plaisir et l'honneur de créer une illustration spéciale pour les 4 ans, qui va être à gagner, puisque à la fin de l'émission, nous allons avoir un petit concours, donc restez jusqu'à la fin de l'émission, pour gagner un exemplaire, alors dédicacé ou pas. Vous me direz si vous voulez que je sache le travail de W6 en y mettant ma signature. En tout cas, version A3 et version A4, il va y avoir des exemplaires à gagner. Rendez-vous donc à la fin de l'émission. En attendant, nous allons revenir sur notre liste de 100 films, nous appuyant donc sur le travail de Quentin et de Fabien, pour faire un premier bilan, voire même un audit sur Sharkspotation.
Here he comes! Super Shark!
Queen of the beach.
Bad as can be, on the land and on the sea.
Super Shark.
I know he's bad.
There's a shark!
Super Shark. Bon appetit.
Gage the enemy.
Watch out.
Blow his ass up.
He can jump, he can fly, he can almost touch the sky.
Super Shark,
a friggin' giant shark.
A
whale of a killer, he makes jaws look like flipper.
Super Shark.
Bon, on va faire un petit récapitulatif de la liste, parce que c'est une des raisons aussi qui me pousse à faire cette audit. Au bout de 100 films, au bout de 4 ans de Shark Parade, il est bon un petit peu de revenir sur cette liste et de prendre le recul suffisant pour se dire est-ce que cette liste est toujours aussi bonne, aussi valable? Alors oui, elle est toujours aussi bonne, aussi valable, puisque c'est ma liste. Donc forcément, elle ne peut pas véritablement se tromper. Néanmoins, il faut quand même bien constater que avec le temps, avec des films que l'on voit un petit peu à la chaîne, eh bien, on peut avoir certains qui étaient parmi les premiers films traités, qui ont peut-être eu plus de mansuétude, ou au contraire plus de sévérité. Certains qui ont été un petit peu noyés dans l'eau. Donc, je vais revenir sur ces films, je ne modifierai pas la liste, je m'appuierai aussi très largement sur la liste Sens Critique de Quentin et sur celle Letterboxd XD de Fabien pour pouvoir un petit peu revenir donc sur cette liste de 100 films. Je vais donc reprendre la liste, je n'ai pas écrit à l'avance un texte en revoyant les 100 films, non, je vais les revoir avec vous et essayer avec le recul de voir si je trouve que j'ai peut-être été un peu dur, un peu trop gentil, ou que, comme d'habitude, j'ai été évidemment la perfection même. Commençons par les incontournables, commençons par les Dents de la Mer, traité dans l'épisode 43, donc qui est premier à 19 sur 20, qui est incontournable, bon bah ça je vais pas trop revenir dessus, hein. C'est quand même le chef-d'œuvre du genre, il n'y a que la qualité de Bruce le Requin qui pêche un peu, mais globalement, on est là sur un chef-d'œuvre incontournable et un des plus grands films de l'histoire du cinéma, donc de toute façon, il n'y aura pas grand-chose à dire dessus. En deux, Instinct de survie, The Shallows, qui est arrivé dans l'épisode 50, dans le dernier épisode en date, et qui atteint la note de 17 sur 20. Alors, je rappelle toujours qu'il s'agit de 17 sur 20 dans les films de requins. Si on était dans le cinéma mainstream, dans le cinéma classique, on enlèverait peut-être 2-3 points pour la plupart des films que nous avons ici. En tout cas, pour le film de requin, voilà, il a fallu longtemps pour arriver à détrôner les deux qui sont derrière, mais on a vraiment là une bonne surprise et un film qui s'inscrit dans les incontournables du genre. À la troisième place de Zexego. Et ce qui est amusant, c'est que ce sont deux films diamétralement opposés. On a le pur film de divertissement, grand spectacle, avec Peur Bleue, le premier du nom, qui était d'ailleurs dans notre premier numéro de Shark Parade, hein, qui m'avait servi de maître étalon pour caractériser la qualité des films, et qui a été longtemps le numéro 2, avant d'être rejoint par Open Waters, en eau profonde. Alors, ce qui est intéressant avec ces deux films, c'est qu'ils sont tous les deux à 16,5 sur 20, qu'ils sont incontournables, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Même si, évidemment, avec le décompte des points, ils sont acquis tous les deux dans la plupart des catégories. Mais on a d'un côté un film à grand spectacle, avec des très gros moyens, et de l'autre, une toute petite production qui repose sur un parti pris quasi amateur et qui arrive parfaitement à filer la flip. Alors je sais que Open Waters est un film beaucoup plus clivant et que Peur Bleue a un petit côté kitsch. Donc c'est aussi ça qui est rigolo, c'est que pour beaucoup, ce sont deux films qui ne méritent peut-être pas forcément d'être là, mais qui pour moi représentent les deux facettes du film de requin. Soit le spectacle un peu fun, où on est venu pour s'amuser, soit le film qui va vous filer le petit coup de flip en étant le plus réaliste possible, ou en tout cas, en vous mettant dans l'ambiance. Et là, je me rends compte qu'on n'a que 4 incontournables, ce qui n'est quand même pas beaucoup, puisque pour le suivant, on va déjà passer sous les 16 sur 20, et donc rentrer quand même dans les bons films. Alors, nous avons à 14 sur 20 en 5e film, finalement, 37 Meters Down, sorti donc en 2016, qu'on avait traité dans l'épisode 9, qui est un bon film, mais qui souffre pour moi d'une fin qui manque un peu d'imagination en se reposant un petit peu trop sur les hallucinations de ses personnages. Voilà, mais ça reste quand même là encore de la très bonne cam, hein, comme sa suite qui n'est d'ailleurs pas mal classée. Clairement, le réalisateur Jonas Roberts, il est pas mauvais du tout, sauf quand il s'attaque à la saga Resident Evil, hein, puisque c'est lui qui avait fait Bienvenue à Raccoon City de sinistre mémoire. En espérant que ce soit juste un accident lié à des contextes de production un peu compliqués, ou à la malédiction propre au film Resident Evil, enfin en tout cas, bon. J'attends quand même avec intérêt les prochains films du réalisateur. Sixième film, The Reef, d'Andō Traoki, à 13 sur 20, qui s'inspirait lui-même pas mal d'Open Waters, et qui va inspirer beaucoup de films qui suivent, notamment de productions récentes. Alors Traoki est vraiment quelqu'un qui s'est spécialisé dans le film de bébête, hein, notamment avec la série des Blackwaters et de ses crocos. Alors le dernier Blackwaters Abyss est vraiment pas bon. J'espère qu'il va se rattraper avec sa suite de The Reef qui arrive, qui est The Reef Stoked, et qui s'en propose encore une fois sur le même concept qui commence à être un peu usé de quelqu'un perdu dans l'océan, un requin qui tourne autour. J'espère que le film va être au moins divertissant. Ce qui est possible puisque nous avons en 7ème place, ex aequo certes, Peur Bleue numéro 3. Et oui, une suite tardive qui était étonnamment bonne, filmée par une équipe sud-africaine, accompagnée de Bates 3D, film avec un requin qui fait ses courses dans un supermarché, ces courses étant des gens qui sont réfugiés d'un tsunami au-dessus des rayons, de films qui sont étonnamment fun et plaisants pour des productions, on va dire, de moyenne gamme, l'une étant quand même sortie au cinéma, l'autre étant directement pour le marché de la vidéo, et sachant exactement quoi faire. Et ben, quand on le fait bien, ça donne un bon résultat. En 9ème place, ex aequo là aussi, à 12,5, on est toujours dans les bons films, avec 3 films d'un coup à la 9ème place, avec le score de 12,5, donc on est toujours dans les bons films. Des films très différents, et peut-être parfois un peu plus anciens, puisqu'on a Les Dents de la Mer, 2ème partie. Une suite qui ne démérite pas tant que ça. Elle est souvent considérée comme un peu moins bonne, mais avec le temps, elle a fini par acquérir ses lettres de noblesse, on va pas se le cacher. Certes, c'est pas le génie de Spielberg derrière la caméra, mais c'est un honnête réalisateur qui fait bien son travail. Toujours à 12,5, dans un style radicalement différent, Tikoyo et son requin. Un film de 1962 qui joue un petit peu davantage la carte de l'exotisme, avec cette histoire d'un jeune Polynésien qui devient ami avec un requin. Donc méchant requin tueur, c'est pas tout à fait le cas ici, mais on a un film qui certes accuse son âge, mais qui est vraiment assez plaisant. Et puis à l'opposé du spectre, toujours à 12,5, une production de vidéoclub complètement décomplexée, Ghost Shark, de Griffiths en 2013, un film qui a la particularité d'être très imaginatif dans la façon dont son requin fantôme apparaît dans l'eau. Le moindre gobelet rempli d'eau, la moindre piscine permet de cacher le squale, peut-être quelques longueurs dans sa dernière partie, mais un film que j'aime bien. Alors je suis parfaitement conscient que c'est une grosse production un peu débilos, mais quand c'est bien fait et qu'il y a des idées, eh ben il faut en profiter. Je vous rappelle, on juge des films de requin. Alors comme il y avait 3 films, ça nous fait sauter tout de suite à la 12e place. 12e place pour des films à 12 points. Je crois pas qu'il y ait de hasard. 5 films d'un coup qui vont venir se partager cette 12e place. Alors désormais, comme il y a beaucoup d'ex-aequo, je vais essayer de faire les films rapidement et dans l'ordre de leur apparition dans le podcast. Comme ça permettra un petit peu de s'y retrouver. Alors donc, avec 12 points, on a donc 5 films. On a The Meg en eau trouble. Le film avec Jason Statham et un requin géant, qui va d'ailleurs avoir une suite très bientôt, qui a fait un méga succès en Chine. Alors, c'est un film qui est pris avec pas mal de pincettes, mais globalement, moi je l'ai revu d'ailleurs récemment, puisque je crois qu'il était sur Netflix ou sur Prime, je sais plus, mais en tout cas, je l'ai vu en vidéo à la demande il y a quelques mois, et certes il est complètement débile, mais il y a des vraies bonnes scènes, moi j'aime bien le look du Meg. Beaucoup n'aiment pas tellement ce mégalodon et le trouvent un peu moche. Moi, je trouve justement qu'il a une présence parce que c'est un animal particulièrement laid. Et d'un point de vue technique, on va pas se le cacher, c'est un film qui a 100 millions de dollars de budget et tient quand même pas mal la route. Alors, toujours dans les bons films, on va aller cette fois-ci en Italie pour La mort au large, Ultimo Squalo, épisode 28. C'est un rip-off des Dents de la Mer. Hein. C'est un rip-off italien. Vous savez que j'aime le cinéma bis italien et que j'aime les rip-offs italiens. Même si, en les voyant à peu près tous, y a une qualité qui est très très inégale. Mais là, c'est peut-être le meilleur de tous. C'est le Enzo G. Castellari. Il y a de l'action. Ce film va d'ailleurs largement se faire piller par les autres qui vont en prendre des morceaux et qui vont le dépecer. On va pas avoir d'autres mots. Ensuite, toujours à cette 12e place avec 12, 47 Meters Down Uncage, épisode 35. Un film qui est une suite totalement honorable du premier 30 Meters Down, même si en fait c'est des histoires qui n'ont rien à voir, avec des requins aveugles. Et là encore, un film qui était vraiment une bonne surprise. Je crois qu'il est sur Prime, vous pouvez largement le voir. Le début est un petit peu long à se mettre en place, mais une fois qu'on est dans le temple sous-marin, ouais, c'est quand même plutôt sympa. Toujours à 12/20, Shark 3D ou Shark Night 3D, c'est le titre original, sorti au cinéma en 3D d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on l'appelle comme ça. Vraiment un film qui exploite bien son concept de gens qui utilisent des requins pour faire des meurtres. Des meurtres façon slasher. Et franchement c'est fun, il y a des types de requins comme le squalet féroce qu'on voit pas souvent. C'est bien, c'est un bon petit film, faut pas trop lui en demander, 12/20, on est dans le bon film. Toujours à 12/20, dans des productions un petit peu plus frappadingues, RoboShark. Dommage qu'il ait pas eu de version française. Alors c'est vraiment la production de vidéoclub décomplexée, avec un scénar qui tient sur un timbre-poste, puisqu'on a un requin qui est transformé en robot par un vaisseau extraterrestre, et qui ensuite va attaquer Seattle. C'est bourré de bonnes idées, les effets spéciaux sont pas si mauvais que ça, il y a beaucoup d'humour. C'est de la bonne série B décomplexée, n'attendez pas plus, mais ça vaut le coup d'œil. On quitte les bons films et on passe au routinier. Bon, routinier à 11,5, donc ça reste encore très largement regardable. Nous avons tout d'abord Sharknado, le premier du nom, quand il y avait encore un petit peu de fraîcheur dans le concept. Le premier est un film catastrophe, certes débile, mais qui n'avait pas encore pris le tournant blockbuster de chez The Asylum, donc au moins pour son originalité, il atteint les 11,5. Les 3 autres frisent le bon film, mais sont là aussi, un petit peu comme Sharknado d'ailleurs, parce qu'ils sont quand même assez nanardeux dans l'ensemble, avec soit des idées débiles, soit une réalisation aux fraises. Alors, on va commencer par Sharkman, alias Hammerhead Shark Frenzy, avec son homme requin et Jeffrey Combs en savant fou. Un film que j'aime beaucoup, qui est ni fait ni à faire d'un point de vue de la réalisation, mais qui est extrêmement fun et qui a été chroniqué sur Nanarland. Il est apparu dans l'épisode 20, dans l'épisode 36, on a traité d'un film d'âme shark qui mériterait presque d'être dans les bons films. J'ai un petit regret, voilà, tiens, on parlait un petit peu du classement. S'il y en a un que j'aurais peut-être fait basculer si j'avais vu plus tôt dans les bons films, c'est Dame Shark, parce qu'il est vraiment fun. Et il est fun en ayant conscience de ce qu'il fait, c'est un petit mélange, un peu The Office, film de requins qui construisent des barrages avec les cadavres de leurs victimes pour bloquer une rivière. Il y a plein d'idées assez rigolotes. Et Dame Shark est un film, oui, qui frôle le bon film, mais qui pourrait y être, si je refaisais le classement, peut-être que j'aurais une petite tendresse pour lui. Shark Attack 3 Megalodon, qu'on a vu dans l'épisode 48, lui, c'est The Pure Nanar. C'est vraiment le film fun, je l'ai chroniqué sur Nanarland, avec des effets spéciaux invraisemblables, c'est une production New Image, c'est la meilleure production New Image, je crois, avec Sharkman, justement, puisque les deux doivent être des productions New Image, et c'est un film, qui vaut surtout pour son final complètement apocalyptique, avec des requins grossis à l'écran qui bouffent un peu tout et n'importe quoi, des bateaux, des scooters des mers, des sous-marins, enfin n'importe quoi. Trois films, la 21e place et avec 11 points. Nous avons tout d'abord un film de patrimoine avec Les Mâchoires Infernales de 1976, un film qui a précédé Les Dents de la Mer et qui a surtout dû son succès chez nous aux Dents de la Mer, on l'a vu dans l'épisode 4, puisque il serait jamais sorti chez nous en vidéoclub s'il ne s'était pas un peu raccroché à la vague Dents de la Mer, parce que c'est un film assez original, avec un type qui est persuadé d'être le protecteur des requins, et donc qui se donne comme mission de tuer tous ceux qui s'en prennent à ses amis squales. Toujours à la 21e place, à 11 sur 20, nous avons Shark Hunter, de Matt Codd, un film de 2001 qui a ses défauts, qui a une certaine lenteur, des effets spéciaux qui datent bien de 2001, à l'époque où le tout numérique était pas encore très très réussi, mais je trouve qu'il réussit à développer une vraie histoire un peu sympa, et avec une conclusion un peu originale, donc voilà, je suis peut-être un petit peu plus tendre pour celui-là. Il se laisse quand même bien regarder. Autre film de patrimoine que nous entraînons dans l'épisode 39, Les Requins, Shark's Treasure, de 1975, le prototype du film d'aventure, où les requins sont surtout là pour garder les trésors, et sont surtout des menaces, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément au centre de l'histoire, il y a pas mal de films d'aventure un peu de cet esprit-là, et on est dans des films d'aventures exotiques et tropicales typiques des années 70. Alors, que je refasse mon compte, on passe à la 24e place, avec deux films qui ont 10,5. Il s'agit de Sharktopus versus Pteracuda, le deuxième opus de la saga Sharktopus. On n'a pas traité le premier, qui je pense sera au-dessus, parce que j'en ai un très très bon souvenir d'un film parfaitement crétin, avec un monstre très fun, mais qu'on nous montre beaucoup. Le deuxième est encore assez rigolo, et que, on va dire, la qualité Corman, c'est-à-dire que, quitte à faire des films de série B, Roger Corman sur les films récents maintient quand même un certain niveau de qualité. Et puis, puisque nous sommes dans les suites un peu pétées, Les Dents de la Mer 3, Jaws 3D. Alors, on a eu un épisode spécial concernant ce film avec Romain, qui s'est appliqué à défendre Les Dents de la Mer 3, qui est un film qui se laisse encore regarder, qui a des défauts, je vais pas le cacher, qui a vraiment une grosse première partie qui pêche, qui a des effets spéciaux un petit peu catastrophiques, alors à moins de le voir vraiment dans des bonnes conditions, mais comme on le voit jamais dans des vraies bonnes conditions, c'est-à-dire avec la 3D cinéma. Mais bon, ça reste encore un Dents de la Mer qui peut être regardable pour les aficionados du genre. On passe ensuite à la 26e place, et on arrive à la moitié, on arrive à la moyenne. 10 sur 20, et les 4 films qui sont à 10 sur 20 sont encore regardables par le plus grand nombre. Je dirais que jusqu'à 10 sur 20, vous pouvez le regarder, et vous pouvez passer un relatif bon moment si vous êtes indulgent, et si vous êtes amateur des films de requins. Donc nous avons dans l'épisode 2 traité de Malibu Shark Attack, qui nous présente un tsunami sur Malibu et des requins gobelins avec leur trogne très particulière. Un film qui au moins a un peu de rythme, tout comme Mega Shark vs Colossus traité dans l'épisode 16, alors là encore les sagas interminables de The Asylum. Les Mega Sharks en fait n'ont fait que s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et ce Mega Shark versus Colossus est peut-être le meilleur de la série, on va pas se lâcher, c'est le dernier en tout cas. Et c'est celui qui croise l'attaque des titans et la saga des requins géants. Donc bon, c'est l'originalité, c'est rarement ce qui est le plus acquis, mais c'est au moins assez fun, assez agréable à regarder. Quoi. En tout cas, dans un l'aune de ce que nous fait The Asylum, qui quand même nous a fourni un bon cinquième des films que nous avons traités ici, et qui continue à nous torcher, j'ai pas d'autres mots, tout un tas de films de requins à la chaîne, de plus en plus médiocres. Je viens de voir Meg Uprising, là. Oh là là, mais c'est... Ils en ont plus rien à faire, hein. Là, The Asylum, c'est... Ils essaient même plus. C'est du jugement foutisme, on dirait le gouvernement. Enfin bref. Ensuite, deux films où le requin est une menace périphérique. Le chasseur de monstres. Un film d'Enzo G. Castellari, là encore, épisode 23 avec Franco Nero, où on est dans la recherche de trésors et où le chasseur de monstres en question, c'est un chasseur de requins. Et on est dans le film d'aventure, là. On est dans le bon film d'aventure. Là, 10 sur 20, ma grosse tendresse pour le film italien a fait beaucoup. Toujours 10 sur 20, USS Indianapolis de Mario Van Peebles, épisode 24, avec Nicolas Cage. Il s'agit de l'adaptation du drame de l'USS Indianapolis qui transportait la bombe atomique pour Hiroshima, qui a été coulée par un sous-marin, et une partie de l'équipage a été mangée par des requins. C'est un film à relativement gros spectacle, hein, c'est une belle production, mais... assez morne en fait dans le fonctionnement, donc ce qui fait que tous les domaines techniques, qualité des requins, réalisation, ça passe encore. Après, on peut pas dire que l'ambiance soit extraordinaire, même Nicolas Cage est un petit peu en sous-régime. Bon, 10 sur 20, ça peut se laisser regarder, mais c'est quand même pas un chef-d'œuvre absolu. On va passer donc toujours dans le routinier, sous la moyenne, donc là maintenant je commencerai vraiment à ne le recommander qu'à des nanardeurs chevronnés, qu'à des requinologues idolâtres, ou des masochistes qui aiment se faire coincer les doigts très fort dans la porte. Enfin bref, des films qui sont à réserver pour la fanbase hardcore de Shark Parade. Alors, on saute tout de suite à 9, parce qu'il n'y a pas de film à 9,5, curieusement. À la 30e place, 3 films. On commence avec un film indien à Tank que nous avons chroniqué dans l'épisode 10. Alors, officiellement, il est sorti en 96, mais il était partiellement tourné dans les années 70. C'est un film avec toute la folie du cinéma indien, des numéros musicaux, des scènes d'action hyper virilistes, des maquettes directement visibles, mais le tout durant 3 heures, et nous offrant un spectacle assez roboratif. Voilà, il est hors norme. C'est quand même une expérience à voir. Atomic Shark en 2016, épisode 22, c'est le prototype du film de vidéoclub, du film de requin un peu débile avec son requin qui se transforme en bombe atomique progressivement à force d'avoir bouffé des radiations. 9 sur 20, il y a des bonnes scènes. Il y a quelques scènes vraiment rigolotes, mais ça se traîne un peu par moment. C'est assez inégal. Ça reste quand même assez rigolo dans la catégorie des films de requins un peu tournés à la va-vite. Ensuite, nous allons attaquer la Chine, puisque là on est un peu dans l'exotique avec Land Shark, un film très récent, donc on l'a vu dans l'épisode 48, qui est sorti en 2020 et qui fait partie de cette nouvelle vague des films qui sont produites pour les chaînes de VOD chinoises. Alors j'en ai vu d'autres, et je peux vous dire que Land Shark, c'est un peu le haut de gamme de ce que l'on a. Parce que quand on va tirer les autres comme genre Horror Shark, on s'aperçoit qu'il y en a aussi beaucoup qui sont tournés avec encore moins de soins qu'un The Asylum, et surtout encore moins de moyens. Celui-là, il a au moins pour lui d'avoir des effets spéciaux qui tiennent la route, d'être rapide, hein, c'est des films qui font 1h10, douche comprise, et qui vraiment vont à l'essentiel, pas très originaux dans le sens où c'est quand même aussi une compilation de scènes qu'on a déjà vues dans d'autres films, mais voilà, gardez un œil sur ce renouveau du cinéma chinois. Ils ont des moyens de faire du bon. Là, c'est quand même de la petite production, mais c'est quand même assez simple. Je vais commencer à aller plus vite pour ce qui est en dessous, parce qu'on commence dramatiquement à se rapprocher des films nuls. On est à 8,5 et on a carrément 6 films d'un coup. Très différents d'ailleurs les uns des autres. On a eu dans l'épisode 3 L'Empire des requins, une production The Asylum un peu soignée, toujours pas tiré Planet of the Shark qui est l'autre volet de leur Waterworld avec des requins. C'est un film qui a pour lui au moins d'être un petit peu soutenu en termes de rythme, avec ce concept que si vous contrôlez les requins, vous serez le maître du monde. C'était une bonne idée. Toujours dans le même épisode, l'épisode 3, on a eu toujours à 8,5 lui aussi Dark Tide avec Ali Berry. plutôt grosse production, avec un budget assez confortable, mais qui se traîne pendant sa première heure, hein, ce qui est le cas de pas mal de films de requins récents, et de nous offrir que les 20 dernières minutes un peu réussies et qui bougent. Le bikini d'Ali Berry ne peut pas tout sauver, hein, même s'il fait quand même beaucoup pour au moins atteindre ce 8,5. Alors, petite déception pour un réalisateur que j'aime bien, qui est Samuel Fuller. Dans l'épisode 17, on a traité Shark, les requins, qui est un film d'aventure de 1969 avec Burt Reynolds, qui a été d'ailleurs en grande partie désavoué par son propre réalisateur parce que trafiqué par ses producteurs, qui est donc ce film d'aventure très années 60 avec des personnages antipathiques qui se font des pires crasses pour trouver un trésor. Le film se traîne, hein, on va pas se le cacher, malgré, on va dire, son côté film de patrimoine et malgré les noms au casting et à la réalisation. Bah, c'est pas fameux, soyons clairs. Je vous conseille quand même de Samuel Fuller, Dressé pour tuer, si vous voulez un film d'attaque animale d'une autre tenue. Ozark Shark, lui, est sorti donc en 2016, aussi sous le titre de Summer Shark Attack, épisode 21. Il est à 8,5. Ce sont ses productions tournées en Louisiane par différentes sociétés, Cormogeon, Active Entertainment. C'est un des nombreux films de requins de Misty Tolley, une habituée du genre, et c'est peut-être son plus réussi, avec des idées assez rigolotes pour mettre à mort les requins. Ça reste quand même la petite communauté qui se fait attaquer par des requins. Faut aimer l'humour redneck. Bon, c'est pas le pire qu'on a vu. Deux films qui sont des suites moins bonnes, mais forcément pas encore complètement honteuses. Mega Shark versus Mecha Shark, le troisième de la série, qui est parfaitement routinier avec son robot géant, et puis Sharktopus versus Wellwolf, épisode 31, commence vraiment à tirer sur la corde du Sharktopus. On nous sort un nouvel hybride, mais bon, la plupart des bonnes idées et des gags un peu sympas étaient déjà cramés dans les deux premiers, donc voilà, ça cesse regarder, c'est pas encore le pire de ce qu'on a vu, mais on est quand même vraiment dans le routinier. À la 39e place, et terminé avec les films routiniers, 4 films, qui sont, comme leur catégorisation l'indique, pas si pires, mais qui n'arrivent pas vraiment à susciter un intérêt démesuré. Alors, on va commencer par Apocalypse dans l'océan rouge de 1984 de Lamberto Bava, qui est là cette suite italienne des Dents de la Mer, qui se traîne beaucoup malgré son monstre mi-poulpe, mi-requin. Dans le même genre, vous avez Shark Attack 2 de David Wirth, épisode 11, qui est une décalque des Dents de la Mer, avec quelques idées piquées aussi aux Dents de la Mer 3, et qui se déroule de façon, on va dire, très très routinière, c'est-à-dire qu'on voit tout arriver à l'avance. C'est pas le pire qui a été fait chez New Image, mais c'est quand même un petit peu plan-plan. Super Shark de Fred Olenray, épisode 26, il est fun. Il est fun avec notamment son char d'assaut sur pattes qui se frite avec donc le requin qui saute directement sur la plage. Le problème, c'est qu'entre ces scènes un peu réussies, il y a quand même des plages assez longues de discussions un peu stériles, et puis une histoire qui est complètement filandreuse. Shark's Paradise, que nous avons vu dans l'épisode 49, est un sous-Miami Vice australien. C'est clairement un pilote de série télé qui a à peu près le même genre d'ambition et de moyens, et qui a surtout l'énorme défaut d'être surtout un polar, où les requins ne sont que l'arme du crime. Donc, si on le considère comme une série B des années 80 ou un polar, il serait peut-être un petit peu plus haut, mais en tant que film de requin, il arrive à routinier. Mais routinier, c'est pas si mal, parce que là, maintenant, on va rentrer dans le nul. On va rentrer dans le nul avec des films qui sont de pire en pire au fur et à mesure qu'on va plonger dans les abysses. Et là, jusqu'à Shark Paradise, je peux dire, vous aimez les requins, vous aimez les films un peu fauchés, vous avez donc une grande patience et un grand amour du cinéma. Allez, ça peut le faire. Là maintenant, clairement, ce qui arrive, je peux pas vraiment vous le recommander, et encore, on va descendre très 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 bas. Donc on va être sur du film nul. Du film nul, on va commencer à 7,5. Hein. Ce qui me fait penser quand même que quand on fait du film de requin, on a une majorité de films qui est en dessous de 8. Une majorité de films nuls. Et vous savez que je suis quelqu'un qui est plutôt bon public, et quelqu'un qui est très amateur de films de requins, donc qui est prêt à donner généreusement des points. Je donne plus facilement des points à un film de requin qu'à mes élèves. Là vraiment, s'ils ont pas atteint au moins le niveau routinier, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon. Donc 7,5, j'ai 5 films, dont 2 Sharknado. Tant qu'à faire, on va commencer tout de suite par se débarrasser de ça, donc c'est le 6. Enfin, au moins, c'était le dernier qu'on a vu dans l'épisode 6. Et puis, le 2. Dans l'épisode 19, les requins tornades s'attaquent à New York. Et, voilà, c'est le moment où ils sont en train de basculer dans le je m'en foutisme total et dans la folie furieuse que la série Sharknado ayant eu un succès surprise, ils vont en faire leur tête de gondole. Donc, il y a au moins, par rapport au suivant, la surprise de pousser les curseurs à 11 dans les destructions gratuites de monuments avec des requins qui tombent de tous les côtés. Voilà. Le 6, lui, c'est juste parce que ça se termine et qu'ils essaient de boucler un petit peu leur film en essayant de créer, à la fin, presque de l'émotion avec cette série. Donc toujours à 7,5, donc en 43e place ex aequo, La Nuit des Requins, La Notée d'Eglise Quali, de Tonino Ricci, épisode 11, un film d'aventure avec Treat Williams, avec un trésor, des requins qui sont là encore pour les garder, un film d'aventure assez classique, assez courant, dans la moyenne de ce que les Italiens pouvaient faire, pas le plus fou de ce que Tonino Ricci, qui est un habitué de Shannon Ireland, est capable de faire. Toujours à 7,5, on a le deuxième opus de la saga Mega Shark vs Crocosaurus, épisode 43. Alors, c'est au moins un petit peu sauvé par ces acteurs qui cabotinent, mais bon, c'est pas génial. Tout comme Requin l'armée des profondeurs, Shark Swarm, épisode 25, avec John Schneider. Le film qui a d'ailleurs été exploité en deux parties sur Téléfilm, c'est pas d'ailleurs le seul, on n'a pas encore traité de Créature de Peter Benchley, dans un téléfilm de deux épisodes, trois heures, donc c'est long, c'est beaucoup trop long pour ce que ça a à dire, ça n'a pas un énorme intérêt. On passe à 7 avec un seul film, qui est donc le 48e, qui est Killer Shark, alias Swamp Shark de Griff Fuerst, qui est totalement plan-plan, c'est-à-dire que vous avez un requin dans les bayous, et en dehors de sa fin complètement débile, complètement hallucinée, il se passe pas grand-chose, les acteurs bavassent, et puis on a des scènes qui s'enchaînent sans grand génie. J'allais oublier toujours en 48e place, et à 7 points, Dino Shark, qu'on a traité dans le dernier épisode, qui est un film, pareil, sans grand génie, avec des scènes déjà vues, fait suffisamment professionnellement pour que ça passe. Voilà, c'est même bien payé, je trouve, 7 sur 20 pour un film pareil. Parce que on arrive au 50e film, donc à la moitié, et on est à 6,5. Ça veut dire qu'on a quand même 50 films qui sont en dessous de 6,5 sur 20. Je veux pas dire on n'est pas bien brillant dans notre secteur d'activité. Et donc à la 50e place et à 6,5, on a 7 films. Eh ouais, 7 films, c'est vous dire, c'est on navigue à vue. Alors, Peur Bleue numéro 2, vu dans le premier épisode et qui nous permettait d'établir l'échelle basse de notation de Shark Parade. 6,5 sur 20, autant le 1 et le 3 sont fun, autant le 2 est une photocopie littérale du 1 en tout moins bien. C'est-à-dire que vous prenez le 1, vous le faites en tout moins bien, et vous avez le 2. Et évidemment, la note, elle est aussi tout moins bien. Elle est à 6,5, pas déconner non plus. L'attaque du requin à trois têtes, on n'a pas encore abordé la saga de chez Aziz Azelum des films de requins multitêtes. On n'a pas vu le premier d'ailleurs, l'attaque du requin à deux têtes, qui, dans mon souvenir, est plutôt réussi, plutôt fun. Là, l'attaque du requin à trois têtes. Alors, il était dans l'épisode 5. Alors maintenant, rétrospectivement, en y repensant, je le montrais peut-être un petit peu si je le traitais maintenant. Il atteindrait probablement pas le routinier, mais il prendrait peut-être un petit point supplémentaire. J'étais un petit peu dur avec, mais c'est vrai que les effets spéciaux sont moches, les acteurs sont en bois, même Danny Trejo, qui a un tout petit rôle, il se contente de jouer Danny Trejo. Voilà, c'est pas très très bon, peut-être un poil dur avec celui-là, mais c'est le fait peut-être d'avoir été tiré un peu tôt. Donc toujours à 6,5 et à la 50e place, nous avons un House Shark. Alors là, on aborde la sinistre catégorie des films semi-amateurs. Et vous savez que les films de requins tournés pour moins de $3,000 avec son caméscope, c'est pas ma grande cam, c'est pas le truc que je préfère. Ça me fait suffisamment souffrir. Celui-là, il est beaucoup trop long, presque 2 heures, pour nous faire un requin fantôme qui hante une maison et une parodie bien grasse, bien lourde de Les Dents de la Mer, par des amateurs. Il y a quelques gags qui font mouche, ce qui lui permet d'arriver justement à son 6,5, mais c'est peut-être le meilleur de tous les films proto-amateurs, parce qu'on va descendre très 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 bas. Un petit Sharknado qui émerge à 6,5, c'est le 3, Oh Hell No. Sharknado 3, où ils commencent vraiment à plus savoir quoi faire avec leur concept dès le 3. En général, quand vous partez dans l'espace dans un film, c'est que vous avez plus trop d'idées. Il reste encore quelques scènes un peu plus drôles que le 4 et le 5, qui sont plus bas. Toujours à la 50e place, nous avons Santa Joe's de Misty Tolley. Alors, bonne idée de départ, faire un requin de Noël. Un film de Noël avec un requin tueur. Sauf qu'une fois qu'on a posé ça et qu'on a posé cette idée, bah, y a plus rien derrière, quoi. C'est juste un requin avec un bonnet sur l'aileron et des guirlandes électriques dans les dents. Bon, ça va pas très très loin. Darkwater 2003, titre de Philip J. Ross, épisode 30. Un requin qui attaque une plateforme pétrolière. Ce qu'on arrivait à faire dans les années 2000, ou tout début des années 2000, avec vraiment des effets spéciaux ben, qui hurlent leurs années 2000 et leur informatique toute balbutiante. Et ben, des situations très téléphonées, vraiment. Y a beaucoup de parlotte pour camoufler le fait qu'il n'y a pas les moyens de faire vraiment des grosses attaques de requins. Arkansas Women's Prison Massacre. Voilà, toujours à 50e place, à 6,5 sur 20, un film de prison des femmes et un film de requins. C'est fait par Jim Wynorski, qui est un des réalisateurs slash erotoman de la place de Los Angeles. Et un film qui est bizarrement dénué de tout nichon, qui est dénué aussi de tout gros mot. Ce qui est un petit peu, comme je le disais dans la chronique, du vol sur la marchandise quand on connaît la filmographie de Jim Wynorski. Ben, quand on enlève ce qui fait habituellement le sel de ce genre de film, c'est-à-dire la violence, le mauvais goût et les jolies filles un petit peu dénudées, ben, il reste plus que l'ossature, c'est-à-dire pas grand-chose. Pas que ça aurait valu beaucoup plus s'il y avait eu du nichon, mais voilà quoi. Tiens, dans les trucs qu'on aime tous et qui sont mal exploités, des nazis. Ah oui, je sais qu'on aime tous les nazis. C'est les voilà, on leur a pas donné suffisamment leur chance. Enfin bon, ils vont revenir, vous inquiétez pas. Hein, quand on regarde notre vie politique, ils vont revenir. 6,5 sur 20, un film allemand qui avait beaucoup buzzé sur Internet. Sky Shark, donc des nazis avec une base sous l'Antarctique qui élève des requins volants qui attaquent les avions de ligne. La bande-annonce avait fait bien buzzer, puis finalement, bah, tout était dans la bande-annonce, sauf le rythme, sauf la qualité de la réalisation. On était avec un film qui visuellement donnait bien, mais devenait vite ennuyeux au bout de 10 minutes. Allez, deux films à la 58e place, et avec 6 sur 20, Mississippi River Shark, toujours de Misty Tolley, l'épisode 47, vraiment pas bon. On sent que là, ils ont vraiment pas beaucoup de sous, ils ont pas beaucoup d'idées, donc beaucoup de parlotte, quelques petites attaques de requins. Très très en dessous de ce qu'ils nous font d'habitude, les Louisianais. Toujours la 58e place, Sharknado 5 Global Swarming, le 5. Bah, on est en pure routine, si ce n'est que y a des gros moyens, pas mal de guest stars et qu'on va visiter le monde, mais un poil meilleur que le 4, mais juste un poil. À la 58e place, nous avons deux films qui sont à 6. The Shark Fighters, film de 1956, qui nous raconte les exploits de la marine américaine pour créer le répulsif à requin ultime. C'est surtout le répulsif à action. Il se passe rien, si ce n'est les tests pour faire les essais de répulsif à requin au cas où des matelots ou des aviateurs tomberaient à l'eau. Et en dehors, on va dire, de la toute scène finale, c'est surtout le responsable de la base qui se demande si ça va marcher et si son couple va tenir avec son épouse. Toujours à 6 sur 20, et dans l'épisode 44, le même épisode que pour The Shark Fighter, Toxic Shark, donc avec un requin qui crache de l'acide et qui attaque un camp de vacances pour célibataires. Ça aurait pu être drôle si c'était pas aussi classique. Et en dehors de quelques répliques un peu rigolotes, bon, c'est vraiment le film calibré pour être le film de requin classique pour Vidéoclub. Rien de nouveau sous le soleil. On passe ensuite à 5,5, on est déjà à la 60e place. Et on commence en fanfare avec Les Dents de la Mer 4, la revanche que le Paris Shark Festival va nous passer en version remasterisée. Ça tombe bien, je peux pas y aller cette année au Paris Shark Festival. Oh, c'est moche. C'est vraiment moche. Non, je déteste ce film. C'est un des premiers films qui m'a fait mettre une note négative dans mon avis personnel. C'est un film qui m'a mis en colère quand je l'ai vu au cinéma. Donc voilà, je n'ai vraiment pas aimé ce film. J'aurais un petit peu plus de tendresse pour le suivant, où je trouve donc Jerzy Shore Shark Attack, traité dans l'épisode 7. J'ai été vraiment dur avec lui, 5,5 sur 20. C'est une grosse comédie qui se moque de la télé-réalité, et particulièrement donc de Jerzy Shore, qui est un petit peu une sorte d'ancêtre des Ch'tis ou des Marseillais, avec des stars de télé-réalité qui surjouent la bêtise et qui surjouent le mauvais goût. Alors c'est vrai que ces requins, bulldogs blancs, albinos sont dégueulasses, ça, il n'y a pas d'autre mot, que l'humour est souvent bas de plafond, qu'il n'y a pas de véritable histoire, Mais avec le recul, j'ai peut-être été un poil dur, parce qu'il est quand même un petit peu rigolo. Mais bon, voilà, c'est acté. J'ai aussi peut-être été aussi un poil dur avec Raging Shark, épisode 12, qui m'avait énervé, parce qu'en fait, c'est un film qui repose pour une bonne partie, hein, comme certaines productions New Image, sur des stock shots. Et pas uniquement les stock shots de requins du National Geographic qu'on a l'habitude de voir dans tous ces films, mais carrément des scènes entières d'autres de leurs films, y compris les films de science-fiction et les films d'extraterrestres. Donc, il s'était pas foulé. Après, j'ai vu bien pire, ce qui fait que, ouais, à 5,5 sur 20, j'ai été peut-être là aussi un poil sévère. C'est... Mais d'un autre côté, ouais, ça reste quand même pas très très bon. Hein. Alors, ensuite, nous avons une production Corman de 79, Up From The Depth, qui est un film qui a pas très très bien vieilli, hein, avec son monstre en carton et ses péripéties avec trois couches d'humour gras dessus. C'est le genre de production qui a essayé vraiment d'être dans la lignée des Dents de la Mer, avec 10 fois moins de moyens, 100 fois moins de talent. Et le résultat, bon bah, c'est de la grosse comédie, alors peut avoir un petit peu de la nostalgie, mais il y a aussi, même si j'aime bien les années 70, une nostalgie qui finit par saturer par moments. Toujours dans les années 70, nous avons Bermude, Triangle de l'Enfer, Bermude, La Fosse à Maladetta, un film italo-mexicain avec des requins qui gardent un trésor et une cité perdue dans le Triangle des Bermudes. Un film qui sait pas trop où il va en fait, avec des personnages qui sont assez mal campés, des péripéties qui vont de briques et de broc. Bon, c'est pas très très bon, on va pas se le cacher. Même avec la meilleure volonté du monde, c'est pas parce que c'est vintage que c'est forcément très bon. On a ensuite un bon gros nanar que j'aime bien, même si je lui ai mis une note assez basse parce que ses qualités techniques sont catastrophiques. C'est L'Attaque des requins tueurs, l'arc Shark in Venice, un film New Image avec Stephen Baldwin complètement dépassé par les événements et des requins qui attaquent la Sérénissime. Le film est ni fait ni à faire avec des faux raccords, des effets spéciaux qui sont déplorables, des acteurs qui sous-jouent, qui surjouent selon les scènes. Il est à voir uniquement sous l'angle nanar. Là, oui, vous avez passé un moment. Pour le reste, c'est quand même très 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 mauvais. On reste dans le nul. Et à 5 sur 20, on est à la 68e place. J'espère que je suis pas trop emmêlé dans mon classement, mais non, 68e place pour 4 films. Tout d'abord, This and Joe's The X Parody de chez Hustler. La version porno des Dents de la Mer. J'ai d'ailleurs deux autres films porno avec des requins à tirer. C'est le cas de le dire. Bon, on verra ça quand on tombera dessus. En tout cas, celui-là, il est plutôt fun. C'est vraiment la parodie des Dents de la Mer avec des tout petits moyens et des scènes de sexe entre aux chausse-pieds. Après, voilà, ça vaut pas plus que 5 sur 20, mais tout le monde a l'air de tellement s'amuser que, voilà, c'est pas franchement le plus honteux de ce qu'on a pu voir. Ensuite, nous avons Killer Shark, un film de 1950. On est dans le film de patrimoine, on est dans une série B de 1950, où il se passe pas grand-chose. Ça discute dans 3 décors de bateau et une taverne. Et puis, ce qui est aussi gênant, c'est que ça massacre du requin en vrai, hein, puisqu'on voit les pêcheurs de requins, et ça y est, les pas de main morte pour récupérer de l'aileron. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui peut choquer. Ensuite, nous avons Sharknado 4, The Fourth Awaken, à 5 sur 20, donc, qui en dehors de son titre est le nadir un peu de la série, mais enfin, la série n'est jamais montrée très très haut. On est dans les péripéties en pilote automatique. Oh, une tornade, oh, des requins, détruisons un monument, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Bon. On tourne en rond. À 5 sur 20 toujours, nous avons Tintorera, Killer Shark, 1977, hein, les dents d'acier. Bon, épisode 42, c'est un film qui a un certain succès auprès de certains cinéphiles, mais qui est surtout un marivaudage. Un plan à trois, entre trois personnages pendant des vacances, troublés par un requin. Bon, sur cet aspect-là, peut-être qu'effectivement, il était assez novateur pour 1977, mais ça reste quand même un gros film de vacances. Hein. L'amateur de films de requins risque de se sentir floué. Allez, on est à la 72e place avec 4,5 sur 20. Et on va commencer par un de mes chouchous, qui est Cruel Jaws de Bruno Mattei, qui est un film complètement raté, mais tellement drôle et tellement nanar. Je l'ai chroniqué sur Nanarland. C'est vraiment la quintessence de la copie italienne cheap. Les scènes de requins sont piquées dans d'autres films. Les personnages sont des mauvaises copies, des Dents de la Mer ou des Dents de la Mer 3. C'est ni fait ni à faire, mais c'est très drôle. Shark Attack premier du nom dans l'épisode 14 en 1999. C'était les débuts de New Image. Bon, on voit pas beaucoup les requins. J'ai peut-être été un petit peu dur peut-être avec celui-là. Il a quelques fans parce qu'il y a toujours des fans de Casper Van Dien. Il y a de la perversité partout. En tout cas, voilà. Le premier Shark Attack, moi je l'aime pas beaucoup. Je le trouve assez morne, assez mou. Et puis surtout, c'est de la tromperie sur la marchandise. Les requins, on ne les voit quasiment pas. Toujours donc à cette 72e place, dans l'épisode 26, nous avons traité de Scholl, Dents de la Mer Turque. Alors, Dents de la Mer Turque uniquement pour une scène, hein, où le grand Junet Erkin, qui nous a quitté cette année, se retrouve ligoté sur des planches et perdu en pleine mer, et attaqué par un requin en carton absolument invraisemblable. Pour le reste, c'est pas un grand film, mais c'est même pas un grand film de Junet Erkin qui a fait bien plus délirant. Nous avons toujours à 4,5 la chasse au requin tueur High Alarm Off Mallorca, le Dents de la Mer allemand. Il y en a un autre d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y a un autre film de requin allemand que j'ai rajouté à ma liste il y a pas longtemps. Mais bon. En tout cas, voilà, le film de Dents de la Mer qui se passe du côté des Baléares avec des Allemands qui traquent des requins génétiquement modifiés. C'est un téléfilm allemand, tout ce qu'il y a de plus allemand, sans les cascades en bagnole. Parce que voilà, c'est quand même le truc qu'on demande sur les films allemands, c'est quand même qu'il y ait des poursuites en BM sur autoroute, hein. Voilà quoi, c'est quand même la nation qui nous a donné alerte Cobra. Il y a une Deutsche Qualität qu'on voudrait avoir de façon constante, mais là non. Et bon, c'est pas très très bon, c'est assez lent et assez mauvais. 4,5, ouais, j'ai peut-être été un poil dur, mais c'est quand même pas super bon. Alors, ensuite, on va passer à du Marc Polonia. Dans l'épisode 41, on a traité de Virus Shark, qui date de 2021, et qui, on va dire, est un de ses plus réussis. Donc, quand on est dans un plus réussi et qu'on est à 4,5, ça vous donne l'étendue du désastre, parce qu'il a fait une bonne demi-douzaine de films de requins, dont Sharkula, qui vient de sortir, et que je me refuse à voir tant que je ne l'aurai pas tiré au sort. Voilà, je vais essayer de me préserver un minimum. Donc c'était la version Coronasploitation du film de requin. J'ai d'ailleurs fait une notule sur les films de Coronasploitation sur Nanarland. Vous pourrez aller voir un petit peu ça. C'est un film fauché, dont la base sous-marine est tournée dans une école, avec des masques en carton, des requins en images de synthèse premier prix. Là, on va commencer à aborder vraiment le film de requin fauché à tout petit budget. Oh là, ça, je suis fatigué rien que de les réévoquer, tiens. Allez, on clôture les films nuls à 4 sur 20, j'ai 6 films à la place 77. Toujours fidèle à sa conduite, The Asylum, sans nuire à sa santé, peut faire deux mauvais films de suite, l'un en hiver, l'autre en été. J'ai l'attaque du requin à 5 têtes, épisode 12. Ils en ont déjà pas grand chose à foutre sur The Asylum en temps normal. Sur ces dernières années, mais ils ne font plus aucun effort. Celui-là est mauvais comme tout, les effets spéciaux sont pas à la hauteur, les situations sont même pas téléphonées, elles sont faxées, littéralement, tellement on s'attend à ce qui va se passer. Ice Shark, une production The Asylum, dans l'épisode 29, un tout petit peu plus de soins, mais qu'est-ce qui se passe rien, et qu'est-ce que c'est mal joué? Donc, c'est un des requins qui vont attaquer une base polaire et la faire couler au fond de l'eau. Bon, à part le fait d'avoir des requins groenlandais qui sont des requins un peu particuliers, mais qui sont même pas bien exploités, c'est vraiment la production The Asylum de confection courante. Alors, j'ai peut-être été un peu dur avec Avalanche Shark, à 4 sur 20, avec ses requins sous la neige. C'est juste parce que j'avais vu Sand Shark juste avant, qui lui est un peu meilleur. Et que trouvait vraiment très très morne. J'ai peut-être été dur. Celui-là, il aurait pu monter peut-être même de 2 ou 3 points. C'est aussi parce que je l'ai tiré assez rapidement, épisode 15 donc, et que si j'avais vu les d'autres films que j'ai chroniqués par la suite, j'aurais peut-être donné un peu plus sa chance, mais tant pis. T'es mal tombé, mon gars. Je suis un peu sévère avec Open Waters 3, Cage Dive, qui est un fan footage qui est même pas très bon. Il y a une ou deux scènes qui sont à la limite sauvables. Mais bon, ça reste quand même le fun footage avec toutes ces séquences de remplissage et tous ces artifices qu'on a déjà vus en mieux ailleurs. J'aime pas les fun footage en règle générale, c'est rare que j'accroche, à de rarissimes exceptions près. Comme The Medium, tiens, qui est sorti cette année, qui est un film d'exorcisme thaïlandais et coréen, qui est vraiment très réussi. Mais en règle générale, le fun footage, personne n'arrive à atteindre du Blair Witch, quoi, c'est vraiment trop mauvais. Toujours 4 sur 20, Piranha Shark, une production semi-amateur. Quelques gags fonctionnent. Ça doit être mon côté de droite, parce que c'est un film de soutien à Donald Trump, très clair, hein, avec notamment un Kevin Sorbo en maire de New York. Bon, il y a quelques gars qui fonctionnent, mais c'est pas très très brillant, et c'est très très beauf. Mégalodon, alors attention, la version The Asylum, avec un Michael Madsen en gueule de bois permanente. Et je trouve que même à 4 sur 20, c'est bien payé, épisode 36. Je trouve que j'ai été très gentil pour ce film, aussi parce que je viens de voir sa suite, mais qui est affreuse, qui est juste affreuse. Et il n'est pas sûr qu'il atteindrait le niveau nul et le 4 sur 20 si je le retirais maintenant, celui-là. Franchement, c'est vraiment pas bon. Alors donc, voilà, là on est quand même à la bagatelle de 82 films au total qui ont été tirés, puisque donc on est à la place 77, mais il y avait 6 films. On va attaquer maintenant, pratiquement sur une vingtaine de films, nous allons attaquer les films à fuir, c'est-à-dire des films qui sont en dessous de 4 sur 20, et qui sont des films que je ne peux pas conseiller, que je ne peux pas vous dire de voir. Donc, nous allons commencer par 3 films à 3,5 sur 20. Mega Shark vs Giant Octopus, le film qui a lancé The Asylum sur la carte, et qui a lancé la saga des Mega Shark, et qui en dehors d'une ou deux scènes choc, dont notamment la célèbre scène où le Mega Shark va choper un avion de ligne en plein vol, est excessivement mauvais, lent, ennuyeux au possible. Land Shark, Marc Polonia, 3,5 sur 20, bon, c'est du film amateur, avec au moins une ou deux petites idées rigolotes, mais quand on filme un laboratoire high-tech dans une cantine d'établissement scolaire, ça se voit et tout est à ce niveau de pauvreté. Alors on parle de pauvreté, mais toujours à 3,5 sur 20, on a Ouija Shark. Le Ouija Shark de Brett Kelly, ma némésis personnelle, avec Marc Polonia. Le film que j'ai présenté au Paris Shark Festival de 2020, et qui est un film de requin fantôme fauché jusqu'au dernier degré. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir un Ouija Shark 2. Alors, c'est pas Brett Kelly ce coup-ci, mais il y a un de ses acteurs, John Miglior, qui s'y colle, et ça a l'air tout aussi fauché. Et devinez où est-ce qu'ils vont le passer? Au Paris Shark Festival, cette année. Non, je ne serai pas là pour le présenter. C'était un petit peu au-dessus de mes forces, là. Je dois avouer que je suis en thérapie pour ce genre de film. Allez, on passe à la 86e place avec les films à 3 sur 20, et on va commencer par Shark Kill, téléfilm de 1976 qui devait lancer une série où deux personnes qui travaillent sur une station pétrolière se retrouvent perdues en pleine mer et potentiellement traquées par les requins, sauf que les requins, on les voit pas. Ça pourrait être une espèce de lointain ancêtre d'Open Waters ou de The Reef, mais c'est tellement mou et il se passe tellement rien, et surtout c'est filmé comme un téléfilm des années 70, comme un épisode de série télé lambda des années 70, c'est assez moche. Et même avec toute la bonne volonté du monde, c'est pas conseillable. Ensuite, nous avons, toujours à 3 sur 20, Shark Week. On va avoir toute une série de films qui sont mous, qui sont terriblement mous. Donc Shark Week, avec une bonne idée de départ, qui est de faire une sorte de saut avec des requins. D'ailleurs, l'idée a été reprise dernièrement. Il y a un autre film un peu du même genre, là. Blood in the Water, qui est apparu sur les écrans, qui a l'air particulièrement fauché, se passer tout autour d'une piscine où il y a des requins avec 4 personnes. Enfin, celui-là, c'est pas beaucoup mieux. Donc, l'idée de départ est plutôt sympa. Des personnes qui sont capturées, emmenées sur une île, où il a traversé des épreuves à chaque fois pour se faire bouffer par des requins. Mais c'est tellement mal filmé, c'est tellement mou, que c'est vraiment pas bon du tout à regarder. Et les acteurs ont l'air d'être perdus au milieu de tout ça. Une production The Asylum, qui est vraiment dans le bas de classement de ce qu'ils font. Toujours dans les films d'une grande mollesse, Shark Lake, dans les épisode 38, malgré Dolph Lundgren, cette histoire de requin dans un lac, elle est complètement oubliable. Elle est... Il y a pourtant quelques budgets, il y a pourtant quelques acteurs un peu compétents, mais on s'ennuie très très ferme devant ce film. Ghost Shark 2, Urban Jaws, qui n'a rien à voir avec le Ghost Shark, je vous avais raconté un petit peu les histoires peut-être d'embrouilles et de vols de copyright. Celui-là, ça serait l'équipe originale qui avait conçu le concept, sauf qu'ils n'ont pas de moyens, donc c'est néo-zélandais. Et à part une autre idée un peu réussie d'apparition de requins, ben, il se passe rien avec des personnages qui ne sont pas des acteurs professionnels et qui cabotinent, donc c'est vraiment pas très très bon. Deep Blood de Joe D'Amato, toujours à 3 sur 20, fond du fond de l'exploitation italienne. C'est un film mou, qui n'a pas d'idée, et même pour du Joe D'Amato, bah c'est vraiment le pire de ce qu'il a fait quand il avait plus de budget et qu'il faisait des téléfilms à la va-vite. Les requins, on les voit à peine, les persos sont semi-amateurs. C'est vraiment la dégénérescence du bis italien tel qu'on l'aime. On va passer à la 91e place avec 2,5 sur 20, et l'assez pitoyable Jurassic Shark de Brett Kelly. Bon, tourné dans un lac au Canada, avec toujours la même image de requin qui apparaît. C'est pas bon, mais c'est le seul à 2,5 sur 20, curieusement, 91, parce qu'il y a pire. En 92e place, on a 90210 Shark Attack de David De Coto, qui est surtout un prétexte en fait pour filmer dans une maison des éphèbes qui prennent des douches et qui, malgré son affiche hyper rutilante, a plombé l'épisode 2, puisque c'était dans le deuxième épisode, son absence d'action et sa même image de requin recyclée à toutes les attaques. Nous avons ensuite un film mexicain, Furia Assassina de René Cardona Jr., un film traité dans l'épisode 32, filmé littéralement au caméscope, hein, c'est la qualité filmée au caméscope des années 90, avec des scientifiques qui vont se faire attaquer par des requins, enfin, de temps en temps, parce qu'il se passe pas grand-chose. C'est vraiment la mollesse, et en plus ça n'existe qu'en espagnol non sous-titré, bon c'est trouvable sur internet, mais faut vraiment y voir être complétiste. Hein. Je dirais un petit peu la même chose du Shark Zone de Danny Lerner, qui reprend tous les poncifs du sous-dans de la mer, sans y apporter quoi que ce soit de neuf, et surtout pas des requins un peu crédibles, c'est que du stock shot de National Geographic, ou des personnages qui ne soient pas unidimensionnels. C'est vraiment moche, c'est vraiment pas bon. Alors, toujours donc à 2 sur 20, des productions fauchées semi-amateurs, hein, post-apocalyptique Commando Shark, traité dans l'épisode 45, et Sharks of the Corn, traité dans l'épisode 47. Alors d'un côté, on a une espèce de film post-apocalyptique avec des soldats requins qui tuent des gens à la mitraillette, collection de sketchs pas drôle. Donc de l'autre, Sharks of the Corn, des requins qui errent dans des champs, des divinités requins, vraiment des productions amateurs dont les affiches sont toujours plus belles que ce qu'on voit à l'écran. En 97e place, Raiders of the Lost Shark à 1,5 sur 20. C'est un petit peu la suite de Jurassic Shark, ou en tout cas c'est dans la même lignée, et c'est encore plus mou que Jurassic Shark. C'est donc du Brett Kelly, et j'ai quasiment plus de souvenirs de ce film qu'on avait traité dans l'épisode 8. Des images fugaces qui me réveillent la nuit en sueur, c'est affreux, affreux, affreux. On descend encore d'un cran à 1 sur 20, j'étais un peu méchant avec Spring Break Shark Attack. Je l'ai traité dans l'épisode 17, parce qu'il se passe clairement moins de choses que dans un épisode de Melrose Place pendant les trois quarts du film. Il y a une seule attaque de requin à la fin. Bon, c'est un film de vacances, en fait. Et on va terminer avec deux films ex-aequo à la 99e place, à 0,5 sur 20. Psycho Shark, Jaws in Japan. Film ni fait ni à faire. Un film où on va suivre au caméscope deux idoles, deux jolies filles qui prennent leur douche en gardant leur bikini, censure oblige. Et juste un requin qui apparaît, on ne sait pas trop pourquoi, un requin géant dans la scène ultime. Mais ça dure moins de 30 secondes. Et puis c'est tout. Et Shark Exorcist de Donald Farmer. Un film... est-ce vraiment un film ? Un requin démoniaque qui possède une bonne sœur assassine et qui est traqué par un exorciste. Mais c'est pas filmé. En fait, c'est une collection de scènes qui ont été tournées de façon indépendante, qu'on essaie de coller les unes aux autres. Ça se termine par 10 minutes d'une fille qui se balade dans un parc aquatique et qui achète des peluches de requins. Mais si je vous dis qu'ils ont fait un Shark Exorcist 2, que ce Shark Exorcist 2, il doit sortir, c'est vous dire si personne n'apprend de ses erreurs. Les deux derniers, c'est on est à 0,5, et c'est encore parce que si je mets 0, je dois remplir un dossier à l'académie pour expliquer pourquoi. Donc non, c'est pas bon, c'est le fond du fond. Donc voilà. Donc là, c'est plutôt direction poubelle que votre lecteur de DVD, mais si vous voulez vous faire mal. Mais alors là, moi, je préfère prévenir, hein, je n'ai aucune responsabilité dans les séquelles neuropsychologiques si vous voyez ce genre de film. Moi, c'est, je fais chaque part pour vous prévenir de pas les voir, donc ne les voyez pas. Ou alors ne venez pas vous plaindre. Je ne rembourse pas les traitements. Donc voilà, 100 films, il en reste encore plein. Et s'il y en a peut-être 3-4 que j'aurais eu tendance... la plupart du temps, à remonter un peu dans le classement, certains d'ailleurs aussi à baisser, mais globalement, la relecture, eh bien, je suis quand même assez raccord avec ce que j'avais pensé à l'époque à chaque fois de ces films. Donc, un petit audit qui permet de nous remettre en tête tout ce que l'on a traité, en se disant que ben, on est à 100, je sais pas si on a atteint 200, peut-être pas quand même, mais 150, je serais même pas étonné, vu tout ce qui sort cette année. Là, on est à une douzaine de films qui sortent, presque autant que j'ai pu en chroniquer cette année. Donc je suis loin de pouvoir chômer et d'enfin pouvoir prendre des vacances. Great whites, armor aids, and white tip reefs. But the one shark discovery always leave out is the dreadlock rasta fish I'm talking about. Reggae shark, he's real. Reggae shark, him got a band with the seals. Oh, reggae shark, he don't want to arm ya. Reggae shark, he just want ya ganja. Reggae shark. Nous avons donc fait un bilan de Shark Parade et nous allons pouvoir reprendre le cours normal de nos émissions puisque très rapidement va arriver un épisode classique, le 51e, qui va revenir sur Shark Bay de James Nunn et L'année du requin des frères Boukerma, deux films qui sont sortis cet été. Je voulais revenir un petit peu sur l'actualité cinématographique squalesque. Avant de revenir sur le concours, petit rappel, hein, le Paris Shark Festival va avoir lieu du 16 au 18 septembre avec un programme, là encore, très chargé, avec trois projections dans le genre Sharksploitation, un classique, donc Les Dents de la Mer 4, La Revanche, remasterisé, et deux nouveautés, Ouija Shark 2 et The Reef Stoked, qui seront projetés pour la première fois en France. J'aurais bien voulu y être, mais cette année, je ne pourrais pas être sur Paris au moment du festival. Autre moment très important, le 1er octobre, La Nuit Nanarland. Quatre films, on vous a concocté plein de choses, plein de surprises. Le programme devrait bientôt arriver. Mais je peux vous dire que si vous allez à Paris au Grand Rex le 1er octobre, vous allez passer encore une nuit absolument dantesque au milieu des mauvais films sympathiques. Alors, il est temps maintenant d'aborder le concours pour gagner l'un des exemplaires de l'illustration qui a été réalisé pour Shark Parade par W6. Je vous mettrai évidemment en lien du podcast les références pour aller voir son travail. Et pour ce faire, eh bien, nous allons faire un petit quiz audio. Trois extraits de films, trois extraits de trois films qui ont été traités dans Shark Parade. Trois extraits d'ailleurs qui sont même passés dans Shark Parade. Donc si vous voulez les retrouver, vous réécoutez l'intégralité de Shark Parade, ce qui me fera des écoutes supplémentaires. Vous identifiez les films et vous m'envoyez les titres des trois films dans l'ordre sur l'adresse mail de l'émission que j'ai enfin réactivée. Je m'excuse auprès de tous ceux à qui je n'ai pas répondu, mais le mail de Shark Parade avait été indisponible pendant un petit bout de temps. Donc ce mail, c'est sharkparadepodcast@gmail.com, hein, sharkparadepodcast tout attaché en minuscule. Vous m'envoyez donc vos réponses et mi-septembre, probablement pour l'émission 52, pas l'émission 51 qui va arriver beaucoup plus rapidement, d'un exemplaire à 3 et d'un exemplaire à 4 du poster des 4 ans de Shark Parade. Passez bien par le mail, hein, pas le Twitter @ultimetrico, parce que ça va faire beaucoup de choses en même temps, même si c'est par Twitter que je communique majoritairement sur le podcast. Voici donc les 3 extraits à identifier. Bonne chance à tous. Extrait 1.
On est loin d'être au bout de nos peines, Francis.
Billy, qu'est-ce qu'on sait sur les requins ?
Eh bien, on pourrait les comparer un peu à des locomotives avec des mâchoires pleines de dents acérées, qui passent la majeure partie de leur temps à nager, et à manger et à faire des bébés. Et puis c'est tout.
Donc si on maintenait la régate, ça reviendrait à dire « servez-vous pendant que c'est chaud ».
Il n'y a que deux façons de s'en débarrasser. Les tuer ou les affamer.
Extrait 2.
Je trouve toujours cela si fascinant. La distance séparant ces deux yeux. Chez le Sphyrna, la distance est plus grande que chez tous les autres requins. La supériorité de leur vision, leurs organes sensoriels, leur capacité à sentir ou à discerner les changements subtils dans la pression et les champs magnétiques, tout ça fait du requin marteau le tueur le plus dangereux qu'il y ait sur Terre. C'est la raison pour laquelle je me demande encore pourquoi toutes ces proies potentielles sont encore en vie.
Extrait 3.
Je vais me les faire. Nous qui ?
On a appris pour JP. Je suis désolée. Ce sale bâtard de Bradford.
On va chez lui et on fout le feu. Avant, on noie son pote, le schtroumpf.
Eh, hey, relax. Même si j'en veux aussi à Bradford, tout n'est pas de sa faute.
Tu dis qu'il s'est noyé, alors ?
Même pas en rêve, JP est le meilleur nageur de la côte. Personne va aussi vite avec de si petites jambes.
Et Polly a raison. C'est impossible qu'il se soit noyé. Quelque chose d'autre l'a fait.
Tu veux dire qu'il a été attaqué par un machin ? Genre quoi ? Je sais pas trop. À mon avis, c'est une raie. Les trucs qui piquent tout plat. Il y a un Anglais qui est mort comme ça.
Non. Un requin. Il y en a plein qui se promènent sur la côte.
Déconne pas, ici, c'est en Floride. On n'a que des flétans, ici.
Est-ce que les flétans, ça a des dents ?
Voilà, c'est fini pour ce hors-série spécial bilan. Eh bien, nous nous retrouvons assez rapidement pour un épisode normal avec les films de l'été. Et puis, nous allons reprendre un rythme normal sur Shark Parade. Et car même avec 100 films traités, nous sommes loin d'avoir fait le tour de la question. Je vous souhaite une bonne fin d'été, on se retrouve très vite. Vous pouvez retourner vous baigner.